Ja, dann freue ich mich jetzt auf das nächste Referat von Herrn Aglione. Was sind Sie? Aha, Sie sind die ganze Zeit. Hat das alles schon hier?
Ja, so ist es eigentlich.
Herr Aglione ist, jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig sage, stellvertretender Leiter des ganzen Bereichs Politik, Altenpflege, Pflegeheime und so weiter. Stimmt das?
Bei Cura Vida Schweiz.
Sehr gut. Bei Cura Vida natürlich, bei Cura Vida Schweiz. Und er wird uns mit dem Modell vertraut machen, das Cura Vida Schweiz diesen Frühling entwickelt und publiziert hat. Ich übergebe Ihnen das Wort.
Vielen Dank für die Einleitung. Und die Einleitung ebenso. Ich werde auf Französisch diese Präsentation zu führen. So können Sie Ihre Kopfhörer ein bisschen länger genießen. Je vais vous parler d'un modèle qui a été développé par Cura Vida Suisse. Comme M. Ringer l'a dit, je suis donc le responsable adjoint du domaine spécialisé de Cura Vida Suisse, l'institution nationale, l'association nationale des institutions et hommes sociales, plus précisément dans mon cas, de la partie EMS. Ce modèle, je vais vous le présenter, et puis avant ça, je vais rapidement passer sur des slides, parce que bon, vous n'avez pas vu ce dessin-là, mais vous en avez vu plein d'autres, qui vous montre un phénomène qui existe partout dans le monde, ici en Suisse, mais aussi en Afrique subsaharienne, peut-être un petit peu moins avancée. C'est des projections démographiques qui nous expliquent pourquoi on vit actuellement un vieillissement de la population. Ce que ça montre, c'est qu'on a une courbe en bleu, c'est la chute du taux de mortalité, et puis on a une courbe au-dessus en rouge qui montre une chute du taux de natalité. Puis on voit qu'on a un décalage entre ces deux courbes, et que ce décalage amène à un vieillissement de la population. Donc, première chose, c'est quelque chose de mondial. Deuxième chose, c'est quelque chose qui est transitionnel. On est dans une transition. Mais bon, on va y revenir. On est donc en Suisse et on a un vieillissement de la population. Et ce vieillissement, on l'a dit aussi plein de fois ce matin, et aujourd'hui encore, et cet après-midi encore, on l'aperçoit souvent sous l'angle des finances. Alors moi, j'ai fait comme tout le monde, j'ai commencé par vous parler des finances. Là, j'ai un graphique qui sort du Crédit Suisse, comme ça on est bien dans les finances, qui vous montre qu'on a une augmentation des dépenses en fonction de l'âge de la personne. En gros, ça vous montre qu'en 2012, on avait à peu près la moitié des dépenses de la santé en Suisse qui étaient le fruit des 20% de la population les plus âgées. Bon, ça c'est une chose. Mais il faut voir d'autres choses qui se passent aussi. Je vous ai parlé de la démographie, il y a des changements qui sont à l'œuvre. Et ça, on en a parlé ce matin, il y a une question qui venait en disant on ne parle pas assez des proches. Les proches aidants, comme on les appelle, ces gens qui apportent de l'aide aux personnes âgées, mais aussi aux personnes en situation de handicap ou qui sont provisoirement dans une situation de dépendance, cet engagement, il est à prendre avec des pincettes, on est dans l'informel, mais les statistiques fédérales nous montrent qu'il a tendance à diminuer avec le temps. Ça, c'est quelque chose que vous avez sans doute déjà remarqué aussi dans les faits. Les proches sont un petit peu moins aidants, ou du moins, ils ont moins de temps à disposition pour aider. Ils en mettent un peu moins. Ça amène à quoi? Ça amène au fait qu'on a de plus en plus de besoins. On l'a vu avant, les gens vieillissent, et le vieillissement, ça amène des besoins de soins qui sont plus élevés. Et à côté de ça, on a un désengagement progressif des proches aidants. C'est deux choses qui se conjuguent et qui amènent un phénomène de pression de plus en plus élevée sur le besoin en personnel, parce qu'on se reporte sur l'État pour amener ses prestations. Là, c'est une autre statistique qui vous montre simplement l'augmentation de l'offre dans les homes médicalisés, le taux de personnel. Et cette pression, évidemment, on peut faire ce qu'on veut, l'ASI fait un excellent travail, la Confédération a aussi un certain nombre de projets, M. Peters en parlait ce matin, ça amène quand même des tensions, voire dans certains domaines et dans certaines régions à des pénuries aussi en termes de personnel. Il faut trouver des solutions et le contexte politique amène encore à devoir trouver de nouvelles solutions aux solutions qui avaient été trouvées. Bref, on a un contexte qui est challenging. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ce que je vous ai montré en premier, ces statistiques, j'étais pas encore né, on les connaissait déjà. La démographie, c'est quelque chose qui va sur le très long terme. Et ces constats, ces choses-là, on le savait déjà il y a une vingtaine, une trentaine d'années, j'ai un peu plus que 20 ans quand même, et les cantons ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont avancé avec des solutions. Là, c'est un graphique de l'Obsan, je ne vais pas aller dans le détail, juste vous dire qu'il montre qu'on a deux modèles. Il y en a un troisième, mais c'est celui de l'entre-deux. Un modèle, celui que j'appellerais le modèle classique, qui est un recours fréquent à la maison de retraite, le Altersheim. Là, on a un recours fréquent à l'EMS pour des personnes qui sont peut-être âgées, oui, mais pas trop, qui ont des besoins de soins, parce que sinon elles seraient quand même ailleurs, mais pas trop. Et puis du coup, les soins à domicile sont moins développés, et puis lorsqu'on y a recours, c'est ce qu'on voit ici, c'est la queue du cerf-volant, c'est pour des soins. A l'inverse, on a un autre modèle, qui est un modèle plutôt latin, le Tessin est aussi dedans, qui est un modèle qui a très fortement développé les soins ambulatoires. Et là, on a un recours à l'IMS qui est beaucoup moins fréquent. Les gens, quand ils entrent en IMS, sont déjà plus âgés, ont besoin de beaucoup plus de soins. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'ils restent beaucoup moins longtemps en IMS. Bon, je vous ai montré deux modèles. Et puis, on a tendance à dire que ça, c'est le futur. Ça, c'est la direction dans laquelle on doit aller, c'est ce modèle-là. Pourtant, ce modèle-là, il a plein de défauts aussi. Et ce n'est pas les cantons qui l'ont adopté, n'ont pas fini leur travail, entre guillemets. Ils ont encore du travail, je pense que Mme Monod en parlera mieux que moi, pour vous dire que même dans le canton de Vaud, il y a encore des choses à mettre en place pour aller de l'avant, pour faire face aux défis. L'idée qu'on a eue chez Curaviva, c'est de se dire qu'on avait deux variantes. On avait l'ambulatoire d'un côté, le stationnaire de l'autre, et on l'a déjà entendu aujourd'hui. Aller dans ces deux directions de manière séparée, c'est passer à côté du problème ou plutôt passer à côté de la solution. On part du principe que la seule solution qui existe, c'est de dire qu'il n'y a pas ambulatoire qui est au-dessus, qui est mieux que le stationnaire. Il faut prendre les deux ensemble et regarder comment en complémentarité peut fonctionner.
Je vais y arriver.
Avant ça, j'ai trois petites choses encore, très rapidement. La première, c'est ces générations d'EMS. C'est quelque chose qui a été développé par un think tank qui est à Cologne, qu'on aime assez bien chez Curaviva, qui s'appelle le KDA, qui part du principe qu'en regardant l'architecture d'une maison, on peut voir la philosophie qu'il y avait quand elle était construite. Si vous regardez les années 40 à 60, les premiers, ce qu'on maintenant on pense être des EMS, les premiers bâtiments qui ont été construits, c'était sous la forme des asiles. Le premier bâtiment en Suisse romande, à Lausanne, c'était l'asile pour vieillards pauvres et solitaires. On avait des lieux qui protégeaient ces personnes âgées. Dans les années 60, on est rentré dans un modèle hospitalier, avec, disons, une philosophie de soigner les personnes âgées. L'architecture, c'était des chambres avec un lieu commun pour prendre les repas. Les chambres étaient dédiées au fait de dormir, il n'y avait pas véritablement de lieu de vie. Alors on est passé dans les années 80, dans les années 80, au modèle de résidence. Ça, c'est le modèle architectural que vous retrouverez le plus fréquemment dans les EMS aujourd'hui. Il y a même aujourd'hui encore, moi j'ai tendance à dire malheureusement, des EMS qui se construisent selon ce modèle. Ce modèle-là sont toujours des chambres dans lesquelles on dort, ce n'est pas des chambres dans lesquelles on vit, mais par contre il y a des espaces de vie qui se retrouvent un petit peu partout dans la maison et qui vont être dédiés au repas, mais à l'animation, aux rencontres, etc. Dans les années 95, plutôt dans le domaine de la psychogériatrie, mais ensuite ça s'est élargi, on a eu le modèle des groupes de vie, c'est les Wohngemeinschaft, c'est des colocations quelque part. C'est un groupe de 7 à 10 personnes maximum, qui ont aussi des chambres dans lesquelles ils dorment, non pas dans lesquelles ils vivent, mais qui partagent un espace commun, avec un groupe de pairs. Et puis la cinquième génération du KDA, c'est de dire on va dépasser tout ça et on va penser les EMS comme un quartier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aura plus des chambres, on aura des appartements. On n'aura plus des corridors, on aura des rues. On n'aura plus une cantine, on aura un restaurant. Ce n'est pas seulement les termes qui changent, c'est la manière d'appréhender le lieu. C'est de dire, on va avoir un lieu qui est à la fois dans le respect de la maison d'avant, mais en même temps qui apporte les avantages de l'institutionnel. Ça, ce sont les piliers de cette cinquième génération du KDA. C'est ces trois éléments, c'est-à-dire la possibilité de vivre dans un espace privé. Votre chambre n'est pas un lieu dans lequel vous dormez, c'est un lieu dans lequel vous pouvez vivre et vous pouvez inviter des gens. Vous avez un coin cuisine, vous avez un coin pour recevoir les gens. Mais vous avez aussi la possibilité de vivre dans la communauté. Ça, un exemple tout simple, c'est descendre le matin, prendre votre petit déjeuner en pyjama. Parce que vous avez autour de vous des gens que vous connaissez suffisamment pour ne pas être gêné de le faire. Il faut avoir un lieu, il faut avoir une organisation qui permet de le faire. Il faut aussi avoir la possibilité de sortir de ce groupe de pairs, ce que ne permettait pas la Wohngemeinschaft, le groupe collectif qu'il y avait avant. Ça se fait soit en ayant des lieux qui sont mixtes, dans lesquels vous avez le public qui vient, soit en permettant à l'institution de vous amener, de vous accompagner dans le public. Les piliers, j'en ai parlé. Le modèle de Curaviva Suisse, c'est l'idée de se dire on va reprendre tout ce qui est là, et puis on va prendre aussi ce qui se fait de bien en Suisse. Mais je vais y venir, je veux juste encore rajouter une slide par rapport aux baby boomers. On entend toujours, chez Curaviva mais ailleurs aussi, les baby boomers arrivent, ça va tout changer, on ne sait pas trop quoi. Les baby boomers sont des gens qui sont nés entre 1946 et 1964. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont 70 à 52 ans. Je ne vais pas vous demander quel âge vous avez, mais si vous vous demandez ce que les baby-boomers veulent et comment on va pouvoir répondre à leurs besoins, il faut simplement se poser la question, qu'est-ce que nous on veut? J'en reviens à ça et après je passe au modèle. Je vous ai parlé de ces cinq générations. On aime bien apporter chez Curaviva, quand on va dans des EMS pour les accompagner avec des processus de changement, par exemple, leur poser trois questions que je vais vous poser aujourd'hui aussi, et puis vous pourrez répondre pour vous-même. Premièrement, si vous êtes directeur d'une institution, à quelle génération ? Pas au niveau architectural, ça on s'en fiche, c'est à quelle philosophie elle correspond ? C'est la première question, c'est le Ist-Stand, c'est ce qui est aujourd'hui. La deuxième, c'est dans quelle philosophie vous souhaiteriez qu'elle soit, si vous aviez une baguette magique. La troisième, c'est vous-même. Si vous devez entrer dans une de ces institutions, dans quelle institution vous voudriez être ? Dans quelle philosophie vous vous retrouvez ? Si vous avez une réponse différente à ces trois questions, vous avez un problème. La solution, c'est de trouver la même réponse à ces trois questions. En Suisse, on n'a pas un problème d'innovation. On est un pays qui innove beaucoup. On a un problème de mise en œuvre. On a vu, les idées sont nombreuses, que ce soit à l'étranger ou en Suisse. J'entendais Mme Guizy dire, mais le modèle que vous avez développé, c'est le modèle de Saint-Gall. Je suis très content si des villes ou des cantons se reconnaissent dans le modèle de Curaviva. C'est la preuve qu'on n'a pas trop fait mal notre travail. On a pris les idées qu'on a vues sur le terrain, on les a mis dans un modèle, et on a essayé de faire tenir tout ça ensemble pour lui donner une cohérence. Avant de vous le présenter, j'aimerais vous dire qu'on ne l'a pas sorti de nulle part. Il n'est pas sorti d'un chapeau non plus, ce modèle. On a pendant une année travaillé, pendant que l'OFSP prenait du retard sur la publication de son rapport, à se demander, ben nous, tiens, en tant que fournisseur, qu'est-ce qu'on pense être les principes fondamentaux des soins de longue durée. On est arrivé à un rapport qu'on n'a pas publié. On l'a utilisé pour nous, c'était notre base de réflexion. Mais je vous donne aujourd'hui quelques clés qui sont contenues dans ce rapport. Les premiers, c'est les principes fondamentaux. Il faut penser que là, ce sont des principes sur lesquels la majorité des EMS de Suisse actuelles, les privés et les publics, sont d'accord. C'est-à-dire qu'il faut que les soins de longue durée sont en fait un tout, qui est composé à la fois des soins, les soins médicaux, mais aussi de l'accompagnement socio-culturel et de l'hôtellerie. Et que quand on parle d'un EMS et de ce qu'il fait, il faut penser à ces trois choses ensemble. On ne peut pas les séparer, sinon on aura un problème. Ça, je l'ai entendu ce matin, ça m'a rassuré de me dire que, voilà, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient d'accord. La deuxième, c'est de dire que les clients, je sais, on n'aime pas beaucoup ce terme, mais il a un intérêt, et non plus les résidents. Les clients doivent pouvoir définir eux-mêmes ce qu'ils souhaitent avoir comme service. Soit ils sont dans une institution et ils peuvent choisir de ne pas tout prendre, soit ils ne sont pas dans une institution, mais ils peuvent choisir d'aller prendre les services que l'institution propose. Qu'il n'y ait pas de discrimination, finalement. Soit vous êtes obligé de consommer parce que vous êtes rentré, soit vous n'avez pas le droit parce que vous n'y êtes pas encore. Ensuite, les domaines prioritaires sont les financements. On a, dans le financement, à part de dire il faut plus, on a surtout dit il faut simplifier, parce que personne ne comprend plus rien. Le personnel, à part dire il en faut plus, c'était de dire il faut du personnel qualifié au bon endroit, il y a une vraie réflexion autour de ça. Et puis surtout, je ne vais pas passer tout en revue, mais la chaîne des soins à l'interprofessionnalité, l'ensemble des EMS de Suisse a ce... disons, pris ce plaidoyer dans ce rapport de dire on veut travailler mieux et plus avec l'ensemble du réseau de soins. Ça veut dire ensemble, main dans la main, avec les autres acteurs, Spitex, mais aussi les proches aidants, mais aussi les cantons et l'intégralité des personnes de la chaîne des soins. Et ça, c'est important parce que de dire, sur le terrain, les gens sont déjà d'accord. Maintenant, il n'y a plus qu'à arriver avec des décisions politiques et des solutions au niveau financier et des professions. Ce modèle... Maintenant que j'en ai beaucoup parlé, il va peut-être paraître pas si révolutionnaire que ça. Il n'est pas si révolutionnaire, il va rassembler des choses. Vous avez au centre, juste une première chose, on a dessiné des maisons, je n'avais pas le temps de leur dessiner. Pensez ça plutôt comme des ronds ou comme vous voulez, ce n'est pas des bâtiments, c'est des pôles différents. Vous avez au centre un centre de santé. Ce centre de santé, c'est de dire au centre du système, du quartier, ça peut être par exemple un quartier ou une région, il faut des soins, il faut des personnes, des professionnels qui peuvent apporter des soins. Ces soins, ils sont médicaux, thérapeutiques, mais aussi des soins de base, plus des services de transport et d'autres services. Ces services, ils doivent pouvoir être apportés dans les domiciles privés, dans la maison des gens, mais aussi dans les institutions, mais aussi dans des appartements protégés, je vais y revenir, et à l'intérieur d'un centre culturel. Ce centre de santé, il est complété par ses habitats 8 ans de plus en appartement. Là, vous allez me dire, bon, des appartements 8 ans de plus, ça existe déjà, c'est les appartements protégés. On va publier dans quelques jours avec la fondation Age, un rapport qui montre qu'en termes d'appartements protégés, le terme lui-même, il n'est pas du tout protégé. Donc, on entend des choses très différentes à travers la Suisse. Ce qu'on entend, nous, avec ça, sans remettre en cause la question des appartements protégés, c'est un lieu dans lequel il n'y a pas de limite de barrière architecturale, mais aussi la possibilité de rester jusqu'à la fin de sa vie. Si vous avez besoin de plus d'une heure de soins par jour, vous n'aurez pas besoin d'entrer dans une institution. L'idée, c'est de pouvoir éviter ce changement lorsque vous arrivez sur la fin de la vie ou lorsque vous avez un besoin ponctuel de plus de soins. C'est de pouvoir permettre justement de rester chez soi, mais un chez soi qui doit être adapté parce que justement, dans les domiciles privés, vous pouvez vous retrouver avec des barrières architecturales ou alors vous pouvez vous retrouver avec l'impossibilité d'avoir par exemple 24 heures sur 24 quelqu'un disponible parce que vous habitez très loin. À ça, on ajoute le pôle d'accompagnement parce que si vous n'avez pas d'accompagnement, vous avez des problèmes et puis, j'y reviens après, et puis les institutions. Je vais le détailler, comme ça je vais tenir le timing. Ce modèle, il est complet si vous le prenez pièce par pièce, vous avez des problèmes. Si vous enlevez par exemple les institutions, on enlève les EMS. À ce moment-là, à partir du moment où vous aurez besoin de soins spécialisés, par exemple si vous êtes en situation de démence ou en situation palliative complexe, vous allez devoir rentrer dans tout ce qui existera à ce moment-là comme institution, c'est l'hôpital. Et là, on n'est peut-être pas dans une solution optimale. Si on supprime les appartements protégés, c'est une situation qui existe pas mal en Suisse. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez besoin de soins répétés, c'est-à-dire que vous avez besoin de plus qu'une heure par jour de quelqu'un, ou lorsque vous avez un appartement qui n'est plus adapté, vous ne pouvez pas casser les murs ou plus vraiment faire les travaux, vous allez devoir rentrer dans une institution. Là aussi, c'est dommage. Si vous supprimez le pôle d'accompagnement socioculturel, c'est aussi quelque chose qu'on vit très fréquemment avec ce motto ambulatoire avant stationnaire, vous vous retrouvez avec des gens qui sont très bien soignés, mais qui crèvent de solitude. On le sait, les gériatres vous en parleront, que quelqu'un qui est bien soigné, mais qui est âgé, qui a peut-être perdu autour de lui petit à petit son réseau de proches, peut se retrouver dans une situation de solitude, qui peut amener à une situation de dépression, qui peut amener par exemple à une malnutrition, qui peut amener à une hospitalisation. On vous en a parlé ce matin. Entrer dans un hôpital, c'est souvent la première étape avant de devoir rentrer dans une institution. Donc si vous n'avez pas ce pôle d'accompagnement qui justement amène ce pôle-là, vous vous retrouvez dans une problématique. Enfin, si vous n'avez pas le centre de santé au milieu, ben là vous avez un problème parce que le seul endroit où vous allez pouvoir recevoir des soins médicaux, ce sera l'hôpital. Voilà pourquoi dans ce modèle, l'intégralité des éléments sont importants. Ce qu'il a de révolutionnaire en soi, c'est de dire simplement, on peut mettre approximativement qui on veut dans ces cases-là, ça peut être du Spitex si on pense à ce qui se passe aujourd'hui, tout comme des EMS. L'ensemble doit être pensé simplement avec un peu de recul et donner la possibilité aux uns et aux autres d'intervenir. Dans les faits, ça se passe déjà. Dans les faits, vous avez des situations, moi j'ai un exemple, après j'arrête, mais une dame dans le Jura, dans un petit village, qui avait eu une opération de la cataracte, elle devait avoir des gouttes dans les yeux 2 fois par jour. Bon. Spitex est à 20 minutes de voiture et vient 2 fois par jour pour mettre les colliers dans les yeux de cette dame. Cette dame, elle habite à 2 minutes d'un EMS. Et d'ailleurs, Spitex stocke les colliers dans l'EMS, comme ça leur évite de devoir les déplacer. 40 minutes, qui ne sont pas remboursées par les assurances maladies, de transport par Spitex, pour les colliers dans les yeux de cette dame, parce que l'EMS n'a pas le droit d'intervenir dans cette maison. Voilà l'aberration du système dans lequel on est, dans les faits, concrètement. Et ce qu'on demande aujourd'hui, c'est simplement plus de flexibilité. Et après, on pourra discuter des règles, de qui le fera, et comment ça sera financé. La toute dernière chose, ce modèle, on l'a pensé comme un modèle qui répond à la situation actuelle, celle de madame qui est dans le Jura. Maintenant, on se pose d'autres questions comme comment est-ce qu'on va le financer, et puis quels professionnels feront quoi, et comment on va encadrer. Ce sont des projets qu'on va suivre. Pour la question d'interprofessionnalité, on va travailler avec un groupe au niveau national, avec la Société de gérontologie suisse, pour réfléchir à la question des professionnels. Pour la question financière, on a mandaté un cabinet privé pour nous apporter un éclairage sur le financement possible de ce système. Nous, on part du principe que ce sera meilleur marché. Les exemples nous montrent que ce sera meilleur marché. Mais ce n'est pas la question. La question à la base, c'était de dire comment est-ce qu'on répond aux problèmes qu'on a aujourd'hui concrètement sur le terrain et qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution qui va dans le sens de ce que nos membres nous ont demandé. Et c'est justement la dernière chose avec laquelle j'arrête. C'est de vous dire, lorsque vous pensez à cette flexibilisation, ces nouveaux modèles, les citations sont seulement en français, mais j'ai un peu volontairement pris des exemples vaudois, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Dans une phrase du ministre de la Santé vaudois, qu'il présentait un nouveau projet au début de l'année, il disait « Une hypothèse est de réduire avec le projet 40% des hospitalisations des 65 ans et plus, d'éviter 10% des entrées en EMS et de les retarder 3 mois. » Ça, c'est plutôt bien, non ? Ce qui permettrait au canton d'économiser 80 millions de francs. Voilà. Toute la réflexion s'appuie sur cette fin de phrase, c'est les 80 millions de francs d'économie. Nous, ce qu'on dit, c'est que si on peut arriver à des économies avec ce système, tant mieux, mais la base, c'est surtout d'augmenter la qualité et de partir des gens qui sont déjà sur le terrain pour leur donner le pouvoir d'agir. Voilà. Merci beaucoup.